la découverte de l'Inde et le contournement ibérique de l'islam. Avant d'analyser la façon dont les Britanniques ont entrepris de prendre la mesure des castes indiennes avec les recensements coloniaux du XIXe siècle, il est également utile de rappeler à quel point la découverte de l'Inde par les Européens s'est faite par étapes, à partir de connaissances initialement fort limitées et avait elle-même pour origine une quête de nature singulière. De nombreux travaux, notamment ceux de Sanjay Subramaniam, fondés sur un croisement systématique des sources indiennes, arabes et portugaises, ont bien montré les nombreux malentendus sur lesquels reposait l'expédition de Vasco de Gama de 1497-1498. Au cours de la seconde moitié du XVe siècle, le pouvoir portugais était très partagé sur la question de l'expansion outre-mer. Une partie de la noblesse terrienne était satisfaite par le succès de la Reconquista et voulait s'en tenir là. Mais les ordres militaires, en particulier l'ordre du Christ et celui de Santiago, dont était issue la famille de Gama, qui avait joué un rôle central pour mobiliser la petite noblesse guerrière pendant les siècles de la reconquête du territoire ibérique sur les musulmans, souhaitait poursuivre l'aventure sur les côtes marocaines afin de repousser les Maures aussi loin que possible. Les plus audacieux projetaient de prolonger leur exploration le long des côtes africaines et envisageaient de contourner les musulmans par le sud et l'est de l'Afrique en opérant la jonction avec le mythique royaume du moine Jean. Cet hypothétique royaume chrétien, inspiré par l'Éthiopie, jouait un rôle important dans les représentations confuses que se faisaient les Européens de la géographie mondiale, depuis l'époque des croisades, 11e-13e siècle, jusqu'aux grandes découvertes, et donnait l'espoir d'une victoire enfin décisive contre l'islam. Cette ambitieuse stratégie d'encerclement de l'ennemi musulman ne faisait toutefois pas l'unanimité, et ces conflits idéologiques entre une vision terrienne et une vision impériale anti-islam expliquent les hésitations des rois portugais. Face à la pression des ordres, et afin de les maintenir dans l'orbite étatique, le roi se décida finalement à lancer en 1497 l'expédition de Gama, dont la mission était d'aller au-delà du Cap de Bonne-Espérance, atteint par Dias en 1488. L'exploitation des récits des matelots qui ont été conservés, certains redécouverts au XIXe siècle, et la confrontation avec les sources arabes et indiennes permettent de reconstituer assez précisément les étapes du voyage. Partis de Lisbonne en juillet 1497, les trois navires atteignirent les côtes sud-africaines en novembre, puis commencèrent à remonter lentement les côtes d'Afrique de l'Est dans les ports musulmans du Mozambique, de Zanzibar et de Somalie, toujours à la recherche de chrétiens que les Portugais ne parvinrent pas à localiser. Le commerce de l'océan Indien était alors animé par de multiples réseaux arabes, perses, gujaratis, kéraliens, malais et chinois, au sein d'un vaste espace plurilinguistique qui mettait en contact de grands états impériaux et agraires, Vijayanagara, Ming, Ottoman, Safavide, Mogol, et de petits états commerciaux et côtiers, Kilwa, Hormuz, Aden, Calicut, Malacca. Déçu par ces rencontres, qu'il n'anticipait pas, inquiet du mauvais accueil que lui réservaient les marchands musulmans, Gama poursuivit la navigation et se mit à explorer les côtes indiennes à partir de mai 1498. S'ensuivit une série de rencontres mouvementées et de quiproquos à répétition, en particulier à Calicut, dans l'actuel Kerala, au sud de l'Inde. Gama visite des temples hindous et est persuadé d'être dans les églises d'un royaume chrétien, au plus grand étonnement des brahmanes, qui se surprennent également de la petitesse des cadeaux apportés par celui qui prétend représenter le plus grand royaume d'Europe. Gama rentre finalement à Lisbonne, dans des conditions difficiles. C'est en juillet 1499 que le roi portugais annonce fièrement aux autres rois chrétiens que la route des Indes est ouverte et que son envoyé a fait la découverte sur les côtes indiennes de plusieurs royaumes chrétiens, dont l'un à Calicut, qui est une ville plus grande que Lisbonne et habitée par des chrétiens. Il fallut plusieurs années aux Portugais pour comprendre leur méprise et réaliser que les souverains de Calicut et de Cochin étaient des hindous qui commerçaient avec des musulmans, des malais et des chinois, et qui, par ailleurs, ne tardèrent pas à se faire la guerre au sujet des marchands chrétiens, avant que Gama revienne victorieux comme vice-roi des Indes à Cochin en 1523 pour conforter les comptoirs portugais déjà nombreux en Asie. Entre-temps, Cabral, en 1500, avait découvert le Brésil, que Gama avait frôlé en 1497-1499 sur le chemin de retour des Indes, et Magellan avait fait le tour du monde en 1521. Il faudra plus longtemps encore pour que le projet impérial portugais change de nature. Sa dimension proprement messianique, sous forme d'un projet mondial de promotion du christianisme face à l'islam, continuera de jouer un rôle central tout au long du XVIe siècle, en particulier après la création de la Compagnie de Jésus en 1540, les Jésuites. Cette dimension messianique exacerbée explique d'ailleurs comment un pays d'à peine 1,5 million d'habitants a pu ainsi partir à la conquête du monde et d'États beaucoup plus peuplés et par bien des aspects plus avancés. Elle ne sera jamais complètement éclipsée par la dimension mercantiliste. Cette dernière sera au contraire au fondement du projet colonial hollandais avec la création en 1602 de la VOC, Compagnie néerlandaise des Indes orientales, l'une des premières grandes sociétés par action de l'histoire, qui aboutira au cours du XVIIe siècle à la perte d'une partie des comptoirs portugais d'Asie au profit des Hollandais. Les Portugais avaient notamment occupé dès 1511 le port stratégique de Malacca, en mettant fin au sultanat musulman qui contrôlait ce détroit stratégique sur la route maritime reliant l'Inde et la Chine, entre l'actuelle Malaisie et l'île de Sumatra, Indonésie. Malacca fut prise aux Portugais par les Hollandais en 1641, avant de passer sous souveraineté britannique en 1810, comme Singapour. Par comparaison à l'Empire portugais, l'Empire espagnol prit très vite une dimension territoriale beaucoup plus marquée, avec l'occupation de Mexico par Cortés dès 1519 et de Cusco et du Pérou par Pizarro dès 1534. À partir des années 1560, les navigateurs espagnols acquirent la maîtrise des courants, leur permettant de traverser le Pacifique dans les deux sens et d'assurer ainsi la jonction entre le Mexique, les Philippines et les parties asiatiques de l'Empire. Autour de 1600-1610, le Mexique était véritablement le cœur multiculturel de l'Empire espagnol, là où se côtoyaient et se rencontraient parfois les quatre parties du monde évoquées par Serge Grusinski, à une époque où la mainmise des États sur les frontières et les identités étaient plus limitées que ce qu'elle sera par la suite, et où les parcours métissés entre Indiens mexicains, Européens et mulâtres brésiliens, Philippins et Japonais pouvaient conduire les chroniqueurs des différentes langues et cultures à d'étonnantes mises en abîme. Le rival planétaire de la monarchie catholique espagnole, qui, à son zénith, avait absorbé le royaume du Portugal au sein d'une même couronne, 1580-1640, était de nouveau l'islam, en particulier aux Philippines et aux Moluques, Indonésie, où les musulmans avaient pris pied peu avant l'arrivée des Ibériques et où les soldats espagnols ne s'attendaient pas à retrouver leur vieux rival européen, si loin de Grenade et de l'Andalousie, d'où il venait tout juste d'expulser les derniers infidèles en 1492, l'année même où Colomb débarquait à Hispaniola, Saint-Domingue, à la recherche des Indes. Dans les quatre parties du monde, histoire d'une mondialisation, Grusinski montre également comment la rapide victoire espagnole au Mexique s'explique non seulement par les nouvelles maladies apportées avec eux par les Ibériques, mais aussi par leur intrusion dans un régime inégalitaire spécifique et leur capacité à y susciter la révolte. Les formes de travail forcé et de domination pratiquées par la noblesse aztèque faisaient l'objet de contestations anciennes et l'arrivée des Espagnols fournit l'alternative précipitant l'effondrement. Domination par les armes, domination par les connaissances. Quand ils arrivèrent en Inde et découvrirent que des sultanats et empires musulmans y jouaient un grand rôle, les Européens commencèrent naturellement par se ranger du côté des royaumes hindous. Mais les conflits religieux, commerciaux et militaires ne tardèrent pas. Après l'âge messianique, vint l'âge mercantiliste, que la VOC hollandaise et l'EIC britannique incarnèrent à la perfection. Ces sociétés par action, fondées autour de 1600, étaient bien plus que des compagnies de marchands bénéficiant de monopoles commerciaux. Il s'agissait de facto de véritables sociétés privées en charge de l'exploitation et du maintien de l'ordre au sein de territoires entiers, à une époque où la frontière entre la privatisation de parcelles de souveraineté publique, comme l'affermage d'impôts, et les activités économiques privées, par exemple à travers une licence commerciale, était extrêmement poreuse. À partir du milieu du XVIIIe siècle, en particulier après les victoires remportées dans les années 1740-1750 contre les armées bengalies, l'EIC prit de facto le contrôle d'immenses parties du sous-continent indien. L'EIC administrait de véritables armées privées, composées principalement de soldats indiens rémunérés par ses soins, et étendait sa mainmise en profitant du vide laissé par la décomposition de l'Empire moghol et la concurrence entre les autres structures étatiques hindoues et musulmanes en présence. Les multiples exactions commises par l'EIC sur le sol indien conduisirent cependant assez vite à des scandales retentissants. Des voix s'élevèrent au Parlement britannique à partir des années 1770-1780 pour durcir la tutelle de la couronne sur l'EIC. Ces demandes étaient notamment portées par le philosophe conservateur Edmund Burke, bien connu pour ses très critiques « Reflections on the French Revolution » paru en 1790. Burke insistait sur la nécessité de mettre fin à la corruption et aux brutalités des agents de la compagnie, et il parvint, au terme d'un procès mouvementé, à faire condamner Warren Hastings, ancien dirigeant de l'EIC et gouverneur général du Bengale, par la Chambre des communes en 1787. La Chambre des Lords décida finalement d'acquitter Hastings en 1795, mais les élites britanniques étaient de plus en plus convaincues que le Parlement devait s'impliquer davantage dans la colonisation de l'Inde. Il apparaissait de plus en plus clairement que la mission civilisatrice britannique devait s'appuyer sur une administration rigoureuse et des connaissances solides, et qu'il n'était plus possible de déléguer la souveraineté et le maintien de l'ordre à une bande d'avides marchands et de mercenaires. Les administrateurs et les savants devaient entrer en scène. Edward Said, dans son livre sur la naissance de l'orientalisme, a montré l'importance de ce nouveau temps de la présence coloniale européenne en Asie, où la domination entendait s'appuyer davantage sur une supériorité cognitive, intellectuelle et civilisationnelle, et non plus sur la seule force brute et militaire. Saïd insiste notamment sur la façon dont ce moment cognitif, qui vient après le temps messianique et le moment mercantiliste, s'incarne dans l'expédition de Bonaparte en Égypte. 1798-1801. Les motivations politiques, militaires et commerciales n'étaient certes pas absentes, mais les Français prirent soin d'insister sur la dimension scientifique de la campagne. Quelques 167 savants, historiens, ingénieurs, botanistes, dessinateurs et artistes accompagnaient les soldats, et leurs découvertes donnèrent lieu à la publication entre 1808 et 1828 de 28 volumes grand format de « Description de l'Égypte ». Les habitants du Caire, qui se révoltèrent dès la fin de l'année 1798 pour chasser les Français, n'étaient visiblement pas entièrement convaincus du caractère désintéressé de ces bienfaisants civilisateurs, pas plus que les soldats égyptiens et ottomans, qui parvinrent, avec l'appui de la flotte anglaise, a renvoyé l'expédition en France en 1801. Cet épisode n'en marqua pas moins un tournant historique. Désormais, la colonisation allait de plus en plus souvent se présenter comme une nécessité civilisatrice, un service rendu par l'Europe à des civilisations figées, incapables d'évoluer et de se connaître elles-mêmes, voire de préserver leur patrimoine ancien. En 1802, dans le génie du christianisme, puis en 1811, dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand publia des pages très dures pour justifier le rôle civilisateur des croisades et condamner l'islam sans réserve. En 1835, le poète Lamartine publie son fameux « Voyage en Orient », où il théorise le droit européen à la souveraineté sur l'Orient, au moment même où la France mène une brutale guerre de conquête en Algérie. Sans doute ces violents discours civilisateurs peuvent-ils s'analyser comme une forme de réponse à un traumatisme européen majeur et enfoui. Pendant un millénaire, des premières incursions de l'islam en Espagne et en France au début du 8e siècle jusqu'au déclin de l'Empire ottoman au 18e-19e siècle, les royaumes chrétiens avait peur de ne jamais venir à bout des États musulmans qui avaient pris le contrôle de la péninsule ibérique comme de l'Empire byzantin et occupaient de fait la majeure partie des côtes de la Méditerranée. Cette crainte existentielle ancienne et enfin dominée s'exprime nettement chez Chateaubriand, avec aussi une certaine soif de revanche multiséculaire et multigénérationnelle, alors que Lamartine insiste davantage sur la mission de conservation et de civilisation. Pour Saïd, l'orientalisme a eu des conséquences sur les représentations occidentales bien au-delà de la période coloniale. Ce refus d'historiciser les sociétés orientales, cette façon de les essentialiser et de les représenter comme figées, éternellement vicieuses et structurellement incapables de se gouverner, vision qui justifie par avance toutes les brutalités, continue, selon Saïd, d'imprégner les perceptions euro-américaines de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, par exemple lors de l'invasion de l'Irak en 2003. La particularité de l'orientalisme est qu'il a produit du savoir et de l'érudition, et en même temps des façons spécifiques d'appréhender les sociétés lointaines, des modes de connaissance qui ont longtemps été explicitement au service d'un projet politique de domination coloniale, et qui continuent souvent de manifester leurs biais initiaux au sein du monde universitaire postcolonial et de la société dans son ensemble. L'inégalité n'est pas seulement une affaire de disparité sociale interne au pays. Elle oppose aussi parfois des identités collectives et des modèles de développement dont les limites et mérites respectifs pourraient dans l'absolu faire l'objet de délibérations apaisées et constructives, mais qui en pratique sont souvent transformés en antagonismes identitaires violents par une partie des acteurs concernés. C'est le cas pour l'inégalité contemporaine comme pour celle des siècles passés, suivant des configurations qui ont beaucoup changé, mais dont il est essentiel de décrire la généalogie historique afin de mieux pouvoir analyser les enjeux du présent.